Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte, le dernier de la saison. Un rendez-vous compte spécial composé comme chaque mois avec nos chroniqueurs désormais attitrés. Ces chroniqueurs en deux mots et chroniqueuses en deux mots aussi, qui aiment se retrouver, se concerter, se filer des idées sans jamais en être blasés. Et ça tombe bien puisque le blason est justement le thème choisi en commun pour ce rendez-vous compte d'aujourd'hui. Petite définition, histoire de bien le comprendre. Le blason est un type de poème populaire au XVIe siècle à la suite de l'épigramme du Beau Tétain de Clément Marot, composé en 1535. Originalité, le poème repose sur un parti pris thématique. Le poète s'attache à un détail anatomique du corps féminin et en développe l'éloge dans un jeu poétique brillant.
Au Beau Tétain, Clément Marot. Tétain refait plus blanc que neuf. Tétain de satin blanc tout neuf, tétain qui fait honte à la rose, tétain plus beau que nulle chose, tétain dur, non pas tétain, voire, mais petite boule d'ivoire, au milieu duquel est assise une fraise ou une cerise, que nul ne voit, ne touche aussi, mais je gage qu'il est ainsi. Tétain donc au petit bout rouge, tétain qui jamais ne se bouge. Soit pour venir, soit pour aller, soit pour courir, soit pour baler. Tétain gauche, tétain mignon, toujours loin de son compagnon, tétain qui porte témoignage du demeurant du personnage. Quand on te voit, il vient à main une envie de dedans les mains de te tâter, de te tenir. Mais il se faut bien contenir d'en approcher, bon gré ma vie, car il viendrait une autre envie. Oh, tétain ni grand ni petit, tétain mûr, tétain d'appétit, tétain qui nuit et jour criait « Mariez-moi tôt, mariez !» Tétain qui t'enfle et repousse ton gorgias de deux bons pouces. Ah, bon droit heureux, on dira, celui qui de lait emplira, faisant d'un tétain de pucelle, tétain de femme entière et belle.
Alors, nous allons voir de quelle manière très personnelle chaque membre de notre team chronique va traiter ce thème, parfois en s'écartant, bien entendu, de la stricte définition que je viens de vous donner. Et pour commencer, comme chaque mois, nous retrouvons notre ami, Michel Saufroy-Paré, qui nous raconte comment les mains sont le témoin de toute une vie, depuis la petite écolière aux mains tachées d'encre, jusqu'aux mains calleuses de vieilles femmes, aussi belles que jadis malgré tout. Rendez-vous compte.
Pouce. Index, majeur, annulaire, auriculaire, dos de la main, paume de la main, main droite, main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, l'anneau d'or, celui qu'il lui avait passé au doigt, l'entoure encore, bien usé après tant d'années, mais toujours là, symbole d'amour et de fidélité. Elle regarde ses mains, elle les tourne, elle les retourne. Elle plie ses doigts, qui s'agitent comme les pattes d'une araignée, comme les pattes d'un crabe tombé sur le dos. Sentiment bizarre. Ses doigts bougent. Elle existe. Elle est bien vivante, malgré le poids des ans. Ses mains, l'histoire de toute une vie. Elle repense aux mains toutes douces de la petite fille qu'elle fut, blottie dans celle de sa mère, tachée par l'encre au retour de l'école, griffée par les ronces et les épines du chemin. Elle aimait les tremper dans l'eau fraîche du ruisseau. Elle plongeait ses doigts dans le pot de confiture et les léchait avec délice, malgré l'interdiction maternelle. Et puis, elle revoit les mains douces et fines de la jeune fille, de la couturière qu'elle était devenue, brodant les draps de son trousseau. Et puis, les mains de la femme, de l'épouse, de la mère, caressant son nouveau-né pour la première fois, pétrissant la pâte, ses mains qui préparaient le repas pour toute la famille, lavaient, repassaient, parfois rougi et gercé par l'eau froide de la lessive. Oh, bien sûr, pas des mains de bourgeoise, bien manucurées et soignées. Non, mais ses mains, toutes simples, un peu rêches, elles savaient tout aussi bien caresser, consoler, cajoler, réconforter, relever l'enfant tombé, parfois le menacer ou le châtier. Elle serrait celle de ses petits pour les aider à marcher et franchir les obstacles. Elle savait les guider sur le chemin de l'existence. Ses mains tendues vers ceux qui imploraient son aide, son secours. Elles ont beaucoup travaillé à la cuisine ou au jardin, été comme hiver. Peut-être pas autant que celle de son homme, large et rugueuse, des mains d'ouvrier habile et courageux. Lui, il travaillait à l'usine et forgeait l'acier avec ses mains d'or, comme tous les hommes du village. Il fallait bien gagner sa vie pour nourrir la famille, pendant qu'elle œuvrait au foyer doucement, silencieusement. Il s'en est allé délicatement, de ses mains, elle a fermé ses yeux. Les enfants sont partis, moins de travail. Les techniques ont simplifié sa tâche. Les années ont passé. Peu à peu, l'arthrose a déformé ses doigts. Elle l'a fait souffrir. La peau est devenue plus fine. Des veines bleuâtres et saillantes ont fait leur apparition. Elle les regarde. Des mains calleuses de vieille femme, aussi belle que jadis malgré tout, reflet de toute sa vie, peut-être des marques de la sagesse, en tout cas d'une existence réussie. Elle ne regrette rien. Main droite, main gauche, elle les pose sur ses genoux, les regarde avec tendresse, même si elles sont moins agiles. Elle les caresse, elle les aime bien et elle les remercie. Elle bouge encore, elle vit encore.
Merci Michel, merci pour ce regard plein de tendresse sur ces mains, reflet de toute une longue vie faite d'amour, de tendresse, de douleur et d'abandon, de toute une vie quoi. Michel, on te retrouvera dès la rentrée de septembre pour assurément une nouvelle chronique tout aussi de première main.
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM, nous marquons une première pause musicale en accord avec notre thème d'aujourd'hui, le blason, poème en l'honneur d'une partie du corps féminin, avec une chanson de Georges Brassens, datant de 1972, intitulée tout simplement « Le blason », qui rend hommage au sexe féminin tout en déplorant que les mots pour le désigner soient souvent grossiers et vulgaires. Une chanson interprétée pour Rendez-vous compte, avec élégance et subtilité, par notre ami Thierry Leclerc, comédien, compositeur et chanteur.
Ayant avec lui toujours fait bon ménage, j'eusse aimé célébrer, sans être inconvenant, tendre corps féminin, ton plus bel apanage, que tous ceux qui l'ont vu disent hallucinant. C'eût été mon ultime chant, mon chant du cygne, mon dernier billet doux, mon message d'adieu. Or, malheureusement, les mots qui le désignent le disputent à l'exécrable, à l'odieux. C'est la grande pitié de la langue française, c'est son talon d'Achille et c'est son déshonneur de n'offrir que des mots entachés de bassesse à cet incomparable instrument de bonheur. Alors que tant de fleurs ont des noms poétiques, tendre corps féminin, c'est fort malencontreux que ta fleur la plus douce et la plus érotique et la plus enivrante en est de si scabreux. Mais le pire de tous est un petit vocable de de trois lettres, pas plus. Familier, coutumier, il est inexplicable, il est irrévocable. Honte à celui-là qui l'employa le premier. Honte à celui-là qui, par dépit, par gageure, dota du même terme en son fiel venimeux ce grand ami de l'homme et la cinglante injure. Celui-là, c'est probable, en était infameux. Misogyne à coup sûr, asexué sans doute, au charme de Vénus, absolument rétif. Était-ce bougre qui, toute honte but toute, fit ce rapprochement, d'ailleurs intempestif. La malepeste soit de cette homonymie, c'est injuste, madame, et c'est désobligeant que ce morceau de roi de votre anatomie porte le même nom qu'une foule de gens. Fasse le ciel qu'un jour, dans un trait de génie, un poète inspiré que Pégase soutient donne en effaçant d'un trait des siècles d'avanie à cette vraie merveille un joli nom chrétien. En attendant, madame, il semblerait dommage, et vos adorateurs en seraient tous peinés, d'aller perdre de vue que pour lui rendre hommage, il est d'autres moyens, et que je les connais, et que je les connais.
Merci Thierry. Thierry Leclerc pour nous avoir rappelé fort à propos que Georges Brassens était loin d'être un con et que ce dernier thème peut être noblement associé à Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour. Rendez-vous compte.
IDFM, 98FM.
Le corps humain est bien entendu abondamment représenté dans l'art, la peinture en particulier. Il faut cependant l'œil de l'expert pour y déceler une forme de blason. Hommage, je vous le rappelle, à l'un des éléments du corps féminin. Notre thème d'aujourd'hui, c'est ce que va nous démontrer Nicolas Martin, artiste lui-même, notre chroniqueur spécialisé dans l'univers de la peinture, qui va analyser pour nous le tableau « La femme peintre » de Károly Ferenczi, œuvre majeure de la modernité hongroise, dans laquelle la main qui tient le pinceau symbolise son autorité créatrice, son droit de regarder, de choisir et de représenter le monde. Fidèle à ses mises en scène autant musicales que pédagogiques, Nicolas laisse cette fois encore la parole à Cathy France, sa femme, qui dialogue avec lui.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Argument. Aujourd'hui, nous sommes au Petit Palais, devant le tableau « La femme peintre » de Károly Ferenczi, daté de 1903, est visible actuellement et jusqu'au 6 septembre 2026 dans le cadre de l'exposition Károly Ferenczi et la modernité hongroise. Ferenczi est un peintre hongrois, donc peu connu en France, mais c'est une figure de la modernité en Europe centrale qui a su conjuguer naturalisme et esthétisme à travers un ensemble de toiles vibrantes et profondément singulières. Nous retrouvons à cette occasion Nicolas Martin, un habitué de cette émission. Bonjour Nicolas, bienvenue. Vous avez parcouru cette exposition et vous vous êtes arrêté devant cette toile en particulier. Que voit-on exactement dans ce tableau ?
Eh bien, on voit une femme debout en plein air devant son chevalet. Elle tient une palette et un pinceau. La scène paraît simple en apparence, une artiste au travail. Sa robe bleue, son chapeau, la lumière du paysage, la verticalité du chevalet composent une image que je dirais très construite. On a un très beau jeu de contraste entre les ombres du feuillage en arrière-plan et le sujet. La mécanique du tableau est vraiment intéressante, car le chevalet se trouve presque en hauteur par rapport au peintre, ce qui peut sembler étonnant et peu pratique, mais qui nous laisse comprendre qu'elle se situe en contrebas de son motif, pour probablement mieux le peindre. Le corps de la femme qui peint se trouve aussi en recul vis-à-vis de sa toile, comme pour évaluer le travail, geste familier des peintres afin d'embrasser l'ensemble du labeur. Mais je dirais que le véritable sujet du tableau est plutôt à chercher du côté de la main. Elle est en l'air, avec le pinceau en direction de la toile. C'est elle qui tient l'outil. C'est de cette main même qu'émane la création comme prolongement de l'esprit.
Alors c'est intéressant, mais il va falloir nous en dire un peu plus. Pourquoi cette main serait-elle si importante pour le peintre ?
Parce qu'elle donne à la femme une fonction active. Dans beaucoup de portraits féminins du 19e siècle, la main accompagne la pose. Elle repose, elle voile, elle ajoute de la grâce. Ici, elle travaille, elle tient la palette, elle tient le pinceau, elle commande l'acte de peindre. Cette main affirme une compétence, et elle dit beaucoup. Elle dit que cette femme regarde, choisit, compose, corrige, elle possède une autorité artistique et un droit de représenter le monde selon sa vision. C'est un droit à l'expression.
Je vois. Et donc, si je vous suis, pour Károly Ferenczi, en 1903, représenter une femme peintre avait une portée assez particulière.
Oui, très clairement. Autour de 1900, les femmes artistes existent, exposent, fréquentent des ateliers privés, construisent des carrières. Mais leur reconnaissance institutionnelle reste étroite. À Paris, l'école des Beaux-Arts vient seulement d'ouvrir officiellement ses portes aux femmes en 1897, 6 ans avant ce tableau. Ce repère donne la mesure du moment historique. La femme artiste devient visible, elle conquiert une place. Elle entre progressivement dans des lieux de formation et de légitimation. On pense en France, bien sûr, à Suzanne Valadon, mais aussi à Virginie de Montbreton ou Émilie Charmy. Alors qu'en Hongrie, d'autres artistes peintres femmes émergent comme Olga Fialga, femme de Károly Ferenczi, et d'ailleurs probablement représentée sur ce tableau, ou encore, plus tard et dans la continuité familiale, la fille du peintre lui-même, Noémie Ferenczi, qui deviendra l'une des plus grandes artistes hongroises.
Alors finalement, le choix de représenter une femme, non plus comme modèle, mais comme artiste au travail, peut-il être lu comme une forme d'émancipation ? Et cette émancipation tient-elle justement à la sobriété de la scène, qui ne proclame rien mais montre simplement une femme pleinement légitime dans l'espace de la création ?
Oui, tout à fait. Il peint une émancipation calme et silencieuse. Il ne fabrique pas un manifeste, il installe une évidence. Une femme peut être peintre. Sa force tient précisément à cette sobriété. La femme n'est pas représentée comme muse, épouse ou modèle. Elle est montrée dans l'exercice concret de son art. Elle occupe l'espace du travail. Elle appartient au champ de la création.
Vous me disiez lors de la préparation de cette émission que cette conquête de l'espace artistique se traduisait aussi très concrètement par une présence nouvelle des femmes hors de l'atelier. Ces femmes vont sur le terrain et travaillent en plein air. En quoi ce déplacement participe-t-il de la modernité du tableau ?
Oui, et c'est en cela que c'est moderne. Ferenczi est lié à Nagybánya, un foyer essentiel de cette modernité hongroise. Là, les artistes sortent de l'atelier, travaillent en plein air, observent la lumière, cherchent l'accord entre la figure humaine et la nature. Dans ce tableau, la femme peintre, le sujet et la méthode se rejoignent. Ferenczi peint une femme qui peint dehors, et il montre la modernité à l'intérieur même du tableau.
D'accord. Donc, cette femme qui regarde, qui choisit et qui peint, n'est plus un simple motif pictural. Peut-on dire alors qu'elle devient le symbole d'un nouveau statut de la femme dans l'art, non plus seulement regardée, mais elle-même créatrice et porteuse d'un point de vue ?
Tout à fait, un symbole précis et sans grandiloquence. Elle incarne une nouvelle position du corps féminin dans la peinture. Son corps devient le lieu d'une action. Son regard observe, sa main produit et agit. Sa posture indique une concentration ou peut-être une réflexion à bien regarder. Le tableau déplace donc la femme du statut d'image regardée vers celui d'intelligence au travail, avec une prise de parole, avec un propos à soutenir ou à défendre.
Donc, dans le cadre de cette rétrospective où 140 œuvres dialoguent et mettent en lumière les différentes facettes du travail de l'artiste, à travers les paysages, les portraits et les scènes de la vie quotidienne, quelle place particulière la femme peintre occupe-t-elle dans le parcours de Ferenczi ?
Parce que cette œuvre parle encore aujourd'hui, parce qu'elle montre un basculement très concret, comme je vous le disais, un point de départ. Le corps féminin, si souvent représenté dans l'histoire de l'art comme objet de contemplation, devient ici un corps opérant. La main est l'arme de la création. Elle donne à la figure féminine une dignité professionnelle. Elle l'inscrit dans l'histoire de la peinture, non plus par son apparence, mais plutôt par son geste. Et ce tableau est le témoignage touchant d'une impulsion. Et cela pour toute une génération de femmes artistes à cette époque.
Et c'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie, Nicolas, pour cet éclairage. Avant de quitter le tableau, arrêtons-nous une dernière fois sur cette main, centre discret de l'œuvre. Cette main qui tient la palette, qui tient le pinceau, mais surtout cette main qui affirme une place nouvelle, celle d'une femme qui ne se contente plus d'être représentée, mais qui crée, qui regarde et qui choisit à son tour. Et c'est peut-être là que réside toute la force de la femme peintre, dans ce geste simple, presque silencieux, par lequel une femme entre pleinement dans l'histoire de l'art en tant qu'artiste. Merci Nicolas.
Merci à vous.
Et à bientôt dans Argument.
Merci infiniment Nicolas et Cathy France pour nous avoir ainsi donné l'envie de nous prendre par la main, bien sûr, et d'aller avant le 6 septembre 2026 au Petit Palais voir de nos propres yeux l'exposition temporaire Károly Ferenczi, Modernité hongroise.
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique consacré ce mois-ci au thème du blason, en hommage au corps féminin, et nous retrouvons Gérard Pouettre, célèbre auteur des non moins célèbres chroniques de son chat Maurice et de Dialogue avec un arbre, mais aussi de l'anthologie Voyage littéraire, Invitation à l'écriture. Gérard, qui s'intéresse à deux autres éléments du corps féminin que nous n'avons pas encore caressés, si je peux me permettre, n'est-ce pas Gérard ?
Absolument, on peut commencer par la joue. De loin, sa joue semblait ordinaire, pas d'artifice pour la parfaire. Mais plus on s'approchait, plus sa beauté se révélait. On aurait pu anticiper des rides, une cicatrice perfide, voire quelques pores grossiers, un duvet embroussaillé. Mais elle était immaculée, jamais de la vie éraflée, soyeuse comme un coquillage posé par l'océan après un long voyage. Elle était vivante, souple, mobile, d'un tableau, le cœur indélébile. Mais ce n'est qu'en l'embrassant qu'il put saisir cet enchantement.
Bon Gérard, tu peux nous lire aussi un autre de tes blasons, mais cette fois-ci sur le pied d'Anne, si je peux me permettre.
La mère aimait jouer avec ses pieds. Jeanne se sentait privilégiée.
Ah, c'est Jeanne alors ?
Oui, c'est Jeanne.
Ah, j'avais vu Anne, moi, donc petite intro tombe à l'eau. Vas-y, excuse-moi.
Donc la mère aimait jouer avec ses pieds. Jeanne se sentait privilégiée, ses jambes ensorcelées par le velours de l'onde ouatée. Mais elle l'avait attaqué par surprise, puis avait étendu son emprise. Dès qu'elle la vit masser ses chevilles, elle a lancé quelques mandrigues. Une vague énorme lui griffa les talons quand elle fuya sur le sable blond. Soudain, elle se retira de la dune, gentiment sur la pointe de l'écume. Peut-être même murmura-t-elle, « Les pieds de Jeanne sont aussi fins que la dentelle. » Alors Jeanne attendit avec impatience le retour de la jouissance. Plus la mer semblait boudée, plus ses pieds étaient crispés. Ses orteils piétinaient, énervés. Message reçu, une vague était annoncée.
Bon, Gérard, merci pour ces deux blasons, en particulier pour ce deuxième, dont les plus perspicaces des auditeurs et des auditrices auront peut-être perçu de quelle façon Jeanne prenait son pied, plutôt que ses pieds, rendez-vous compte.
Je traînais les pieds des casseroles, je n'aimais pas beaucoup l'école. J'explorais mon quartier. Je traînais des pieds dans mon café. Les vieux à la belote braillaient. Papy, mamie, tonton André et toutes ces pépés à mes petits soins me pouponnaient. La fumée du bœuf bourguignon, toute la famille tête dans le guidon, du temps pouvait faire les cons. Les pensionnaires, les habitués, les gens de passage sur tout l'été, joyeux bordel dans mon café. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Balayer la terrasse, envoler le bout de chou, envoler les miettes de nous. Je traîne mes casseroles. Je n'aime toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous.
Mais Gérard, tu sais te montrer aussi plus délicat à la manière d'un ronsard qui conseillait à sa mignonne d'aller voir sa rose en sa compagnie.
Les cheveux en corolle, les yeux en amande, les joues pommelées, Fleur était épanouie. Lorsqu'elle souriait, ses lèvres s'étiraient, découpant deux tendres zestes d'orange, couleur fétiche de son rouge à lèvres. Involontairement peut-être, elle s'était vêtue d'une tunique verte qui faisait ressortir à la fois sa volupté et sa minceur. Elle avait tout d'une belle plante, depuis la tige souple du corps jusqu'à la fleur du visage. De ses yeux jaillissaient des sources de lumière, électrisant ceux qu'elle regardait. C'était presque trop. Certains ne supportaient pas cette image du bonheur et en venaient à espérer qu'elle se fane le plus vite possible pour les faire sortir de leur ombre.
Ronsard n'aurait pas dit mieux. Alors Gérard, aussi tu enchaînes, je dirais, avec une autre extrémité du corps.
Absolument.
Les pieds.
Oui, les pieds. À deux occasions, j'ai décidé de m'adresser aux pieds. La première, c'est de lui écrire une lettre à mon pied gauche. « Cher pied gauche, quand j'étais dans mon berceau, tu t'agitais déjà bizarrement, selon les dires de ma mère. Tu demandais sans arrêt le soutien du pied droit, puis tu envoyais balader la couette en l'air. Une fois que j'ai su marcher, tu voulais toujours être en retrait, non pas par peur, mais pour avoir la possibilité de taper dans quelque chose. À force d'entraînement, tu ne ratais jamais ta cible. Parfois, tu faisais semblant d'avoir reçu un choc, pour que je te câline, que je te masse. Alors tu laissais jouer tes orteils comme un chat qui se détend sous les caresses. Plus tard, bien sûr, le ballon fut ton instrument favori, et n'importe quel cadre constituait une cible. Tu m'as coûté quelques déboires quand tu as brisé une vitre de l'école. Mais petit à petit, tu as eu de plus en plus de succès. Je ne voulais pas te donner de surnom pour ne pas vexer ton frère, le pied droit. Les autres t'appelaient tout de même Kylian. Alors je nommais ton frère Zinedine.
Référence, j'imagine, à l'actualité footballistique, n'est-ce pas, Gérard? À laquelle tu t'intéresses aussi. Gérard, on continue à chroniquer ensemble à la saison prochaine. D'accord, merci
oui,
Gérard.
Je pense que...
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
IDFM Radio, 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous con spécial chronique consacré ce mois-ci au thème du blason en hommage au corps féminin. Et nous retrouvons maintenant Marine Gauvin, notre illustratrice freelance, qui va nous expliquer que chez l'artiste, le corps est vraiment tout, n'est-ce pas Marine?
Le corps est un espace essentiel en dessin. Il est par celui à travers tout passe. Nos émotions, nos sensations, notre regard, notre toucher, notre odorat, notre goût. Les mains de l'artiste, les yeux de l'artiste, son corps qui se meut dans l'espace, il englobe tout. La main du dessinateur qui tient pinceau, crayon, pastel, fusain, qui lisse ses toiles, son papier, qui sent le toucher du coton, la fiabilité d'une toile tendue. La main qui se tache, se colore, car il n'y a pas seulement sur sa feuille qu'il laisse sa trace. Ses dessins débordent de lui et ses mains sont les premières à recueillir ses traces, ses pigments qui échappent à son contrôle et se rappellent à lui, à elle, qui se retrouvent ensuite sur le visage, le front. Quand, tout à son travail absorbé, l'artiste dégage une mèche de cheveux qui lui barre les yeux et, de là, dépose une large trace colorée de pastel sur sa peau. lorsque, se distançant de sa toile pour mieux l'appréhender, ses mains, inconsciemment pleines de peinture, vont laisser leur empreinte sur ce tablier, dépositaire du travail du magicien ou de la magicienne des couleurs. Les mains qui semblent voir, mesurer l'espace, de ces 5 doigts qui tiennent un crayon, vont ouvrir un monde d'imaginaire et de possibles. Ces mains qui habilement tracent des hachures, des lignes, des ombres, des lumières, 5 petits fragments d'un corps qui vont tout raconter. Comment est-ce possible qu'un monde entier, non encore né, puisse exister dans ces paumes calleuses, ces doigts effilés, ces ongles noircis par l'encre? Dans sa tête, l'artiste voit, sent, imagine. L'abstraction lui permet de construire, d'ébaucher des idées, de tracer des chemins, et ses mains vont tisser le fil qui relie sa pensée à sa toile. Quant à ses yeux, ils sont garants de l'équilibre. Ils mesurent, hiérarchisent, comprennent et perçoivent couleurs, ombres et lumières. Les yeux arrivent jusqu'aux doigts de l'artiste. Il ou elle n'a qu'à suivre son mouvement, le toucher oculaire, et les yeux guident vers la palette, disent « Oui, là, du mauve, ici, rajoute du jaune, là, un bleu-vert moiré, ici, un rose cendré. » Les yeux se ferment et l'image s'impose sur la rétine. Les yeux s'ouvrent et la lumière danse pour s'imposer d'elle-même. Quant aux tripes, au ventre, tout est là. Le recueil des émotions, de celles qu'on n'ose pas dire et pas penser, de celles qu'on ose vivre et raconter. Le cadran solaire, qui rythme l'âme du dessin. Suivre ses humeurs, les épouser pour mieux ébaucher, esquisser. Un jour mal luné, l'encre de Chine va s'égrabouiller sur le papier et les mains sans entrave vont se connecter aux tripes pour donner vie au mâle. Un jour lumineux, des couleurs printanières, des corps dansants, une nature luxuriante et un beau dégradé d'aquarelle. Et quand la nuit tombe et que la journée s'apaise, se couler dans l'intimité de l'obscurité pour retrouver son tableau et, en tête à tête, intimement, avec douceur, se connecter à lui et suivre le flot sans penser. Et puis, après ce corps-là, il y a l'autre. L'autre corps qu'on apprend, appréhende et qui nous sert d'outil. Le corps du modèle qui se dévoile entièrement. Quand c'est la première fois, quelques secondes de flottement. Mais il est vraiment nu devant moi? Mais c'est vraiment son pénis que je vois? Et elle, ses seins? Avant que tout cela ne disparaisse face au travail, à l'outil de compréhension que devient le modèle. Tout ne devient alors plus que proportions, détails, courbes, lignes, creux, pleins, et à chaque modèle de nouvelles lignes, de nouvelles choses à apprendre, derrière l'apparente nudité. Le modèle n'est plus nu, il est si plein de couleurs à présent, de muscles, d'os, de postures. Notre apprentissage l'habille. Le corps, chez l'artiste, est vraiment tout. Chez l'autre et chez lui, à chaque instant, tout le temps. Un corps qui détient des mondes pas encore nés, et qui accouche de couleurs pour donner au monde toute sa beauté.
Toute ma vie je serai coincée dans ce corps, combattant les étiquettes qu'on me colle, oubliant tes mains comme un coma. Tu m'as dégoûté, oui, mais c'est comme mauvais pressentiments viennent OCM. Suite à quoi tu grandis certes, mais tu t'aimes moi. Mais tu t'aimes moi. Toute ma vie je serai coincée dans ce corps, essayant d'aimer la vie comme je l'adorais, allumant la télé, t'es encore là. Car la terre est peuplée de milliers de connards, voulant faire l'amour joliment mais c'est trop tard. Passé 20 ans j'en pleure encore sur le trottoir. Sur le trottoir. Et tu attends 3 ans, 10 ans. Tu fais semblant sous tes vêtements. Quand je dis tu, c'est pour dire moi. Évidemment, évidemment. Je me sens nue, je me suis tue. Ce jour-là m'a tuée. Toute ma vie je serai coincée dans ce corps, sanglotant parfois dans les bras de Victoria. Je te jure que j'ai dit non, je l'ai dit qu'une fois. Ça n'a pas suffi donc il a fini sur moi. Se croyant sûrement puissant du genre Superman, il n'a vu ni mon dégoût ni mes sueurs froides. Et c'est comme ça. Toute ma vie je serai coincée dans ce corps, celui dont j'ai pris peur dès lors qu'il se forme. Devant la glace, je suis laide moi. Et la jolie fille sur les réseaux ne m'aide pas. Voulant bien faire, j'ai donc sauté quelques repas. Passé 20 ans, je t'en veux car j'ai perdu du poids. Perdu du poids. Et tu attends 3 ans, 10 ans. Tu fais semblant sous tes vêtements. Quand je dis tu, c'est pour dire moi. Évidemment. Je me sens nue. Je me suis tue. Ce jour-là m'a tué. Tu es, et tu attends.
coincée dans ce corps. Aujourd'hui je sais pourquoi je n'abandonne pas. Ma rage est ici, dans l'estomac. Me rendra si forte, me consolera. Pas question que tous ces dégâts m'endorment. Pas question que tu gardes ce que j'ai donné. Ce que j'ai donné.
IDFM, 98FM.
Voilà, dans ce rendez-vous compte spécial chronique consacré au blason, c'est-à-dire une représentation d'un élément du corps féminin, nous retrouvons Estelle. Estelle, jeune étudiante dont je suis l'étoile filante avec assiduité.
Les mains qui tricotent, les mains qui tapotent sur un clavier sans aucune rugosité. Les mains qui cuisinent, qui pétrissent, qui malaxent, qui craquent et qui s'arrachent. Qui s'arrachent des autres mains, qui s'arrachent elles-mêmes, leur peau, leur protection. Elles-mêmes se triturent, elles-mêmes se blessent. Elle-même s'oublie. Elle-même le sang sur la peau, elle-même à vif. Elle-même meurtrie. Ça commence par quelque chose qui dépasse, et puis ça finit par un trou, et ça se souvient en un creux, un sillon. Au fil du temps, l'attaque se fait au même endroit. On y laisse un souvenir, une mémoire creusée. Au fil du temps, ça s'assèche, comme une terre aride, comme une crevasse qui se forme, qui se creuse, où le froid s'invite, s'immisce, se blottit pour chercher la chaleur de ce corps. La chaleur dans ses extrémités fragilisées. La chaleur cachée. Que verront-on ? Si l'on s'aventurait dans ces interstices de chair, qu'entendrait-on ? Les craquelures, le déchirement, un bruit sourd ? Ferait-il froid ? Ressentirons-nous l'air passer par les ouvertures ? De quelle couleur serait le sang ? Y aurait-il des filaments de nervures, de douleurs aiguës, aux notes froides, et ses mains aux taches marron et au paysage de plus en plus mouvementé ? Que disent-elles ? Et ses mains bleuies par les rivières qui s'écoulent, et ses mains blanchies par le temps, et ses mains lisses comme une eau calme, comme le ciel sans nuages, sans histoire. Ces mains qui traversent le temps, bousculent les mœurs, révoltent les écoles, écrasent les habitudes, caressent le passé, embrassent la nouveauté, saluent le changement, souffrent en silence la douleur des moments passés d'angoisse et de tristesse, dissimulés derrière un sourire.
Merci Estelle pour une nouvelle fois un de ces textes qui montre que, comme le disait Musset, les mots les plus désespérés sont les mots les plus beaux.
C'est serrer les poings. Mais nos paumes sont pour aimer. Y'a pas de caresse en fermant les mains. Longue jointe en une prière.
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique consacré ce mois-ci au thème du blason en hommage au corps féminin. Et nous retrouvons celle qui aime faire des autopsies, boire du Pepsi et surtout dire des inepties, Hélène Souau, notre psychanalyste, qui nous présente l'œil du psy et qui va nous expliquer comment le blason se décline du côté de la psychologie.
En psychologie comme en littérature, la fascination pour une partie de la personne aimée plutôt que pour l'ensemble de la personne existe bien. Certaines parties du corps, jugées nobles, nous entraînent du côté du romantisme. « T'as de beaux yeux, tu sais », dit Jean Gabin à Michel Morgan dans « Quai des brumes », le dialogue avec l'accent titi-parisien et de Jacques Prévert. On glisse du côté de l'érotisme en s'arrêtant sur des zones traditionnellement sensuelles, comme les courbes de Marilyn Monroe ou les auréoles sous les bras musclés de Marlon Brando dans « Un tramway nommé Désir ».
Voilà, les fidèles de l'œil du psy auront noté que c'est la deuxième fois que les aisselles de Marlon Brando s'invitent dans ta chronique. Bon, une fixation à mettre au travail sur le divan peut-être, non ?
Eh bien, parlons-en de la fixation sur une partie du corps qui devient plus importante que la personne elle-même. Ça s'appelle le fétichisme. En quelque sorte, le fétichiste réalise inconsciemment ce que le poète du blason fait volontairement. Il extrait un détail du corps et lui donne une place centrale. Le désir humain n'est pas purement biologique, il est aussi symbolique. Nous sommes attirés non seulement par ce que nous voyons, mais aussi par ce que nous imaginons. Derrière un pied, une aisselle ou une chevelure, il y a souvent toute une histoire personnelle. Si son premier émoi amoureux a eu lieu dans une grange, il est possible que l'odeur du foin ait un pouvoir érotique. Si le premier émoi est associé à la fessée, comme pour Rousseau dans Les Confessions, la fessée deviendra érotique. Mais attention, les sources d'excitation ne sont pas strictement privées. Elles se partagent, elles circulent dans la littérature érotique et dans la pornographie, dans les accessoires disponibles dans les sex shops, soubrettes, dominatrices, moines lubriques, cuir, latex, talons aiguilles, fouets. Il y a toute une grammaire de l'érotisme comme il y a une grammaire de la langue française.
Bon, rassure-moi Hélène, c'est bien un cabinet de psychologie que tu tiens, hein, n'est-ce pas ? Voilà.
Jusqu'à nouvel ordre.
Voilà. Être émoustillé par une personne portant une tenue sexy, c'est du fétichisme, ça ?
Alors, l'excitation liée au sein, aux fesses et à d'autres zones purement explicitement sexuelles n'est pas considérée comme du fétichisme. En revanche, quand une zone a priori non sexuelle est sexualisée, ou qu'un accessoire, l'escarpin par exemple, ou une matière, le latex par exemple, est indispensable à l'excitation, alors là, oui, on parle de fétichisme. La frontière entre le sexy, comme la lingerie en dentelle, et le fétichisé, comme la fixation sur le latex, est très floue. En gros, quand on s'éloigne de ce qui est considéré comme admis ou normal, on glisse dans la catégorie du fétichisme. Mais la perception dépend de l'époque et du milieu où on évolue.
Bon, t'aurais quand même une définition précise du fétichisme, Hélène.
Alors au départ, le fétiche est un objet investi d'une signification religieuse ou magique, comme un porte-bonheur ou un gris-gris. Le fétichisme, au sens psychologique et sexuel, apparaît à la fin du 19e, avec Freud, et désigne une attirance particulièrement forte pour une partie du corps, un objet ou une caractéristique précise. Le cas le plus connu est sans doute le fétichisme du pied. Gérard a ouvert la voie tout à l'heure. Un exemple frappant se trouve dans le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, paru en 1920. En voici un extrait, je vous situe le contexte. La femme de chambre, qui est la narratrice, vient d'arriver chez son nouvel employeur. Celui-ci aborde immédiatement la question des bottines. Le cocher, qui a conduit la femme de chambre de la gare à la maison, avait déjà parlé de bottines en gloussant. Début de l'extrait. Ce mot de bottine, qui me rappelait l'expression de gouaille polissonne du cocher, m'avait interdite. Cela avait donc un sens. Sur une interrogation plus pressante, je finis par répondre, mais d'une voix un peu rauque et troublée, comme s'il se fût agi de confesser un péché galant. « Oui, monsieur, j'en ai d'autres. »« Des vernis ?»« Oui, monsieur. »« De très, très vernis ?»« Ben oui, monsieur. »« Bien, bien. Et en cuir jaune ?»« Ah, ça, j'en ai pas, monsieur. » « Il faudra en avoir, je vous en donnerai. »« Merci, monsieur. Bien, bien, tais-toi. » J'avais peur car il venait de passer dans ses yeux des lueurs troubles, des nuées rouges de spasmes et des gouttes de sueur roulées sur son front. Fin de l'extrait. Ce texte est situé dans les premières pages du livre. L'auteur n'attend pas longtemps pour plonger le lecteur dans ce qui apparaît à la fois comme une situation de domination d'un maître sur sa servante, avec des demandes excédant largement le travail d'employé de maison, et un trouble proche du désordre mental à la simple évocation des bottines de cuir jaune. Ici, l'objectif de Mirbeau est de faire à travers l'œil de la femme de chambre une peinture au vitriol de la bourgeoisie de province, coutumière des abus de pouvoir et lieu de tous les vices.
Donc alors le fétichisme, c'est un vice.
Alors le vice et la vertu ont un sens dans un contexte religieux très présent au début du XXe siècle, à l'époque de Mirbeau. Aujourd'hui, on n'évalue plus les étapes psychiques en fonction de la moralité, mais en fonction de leurs effets et en fonction du rapport à la loi. Le DSM, l'ouvrage de référence des maladies mentales, ne mentionne le fétichisme comme trouble mental que dans les cas où il entraîne de la souffrance, ou bien une altération de la vie personnelle, professionnelle et sociale, ou bien des comportements ne respectant pas le consentement d'autrui. Finalement, si Robert aime porter de la lingerie de temps en temps et qu'il est heureux comme ça, tout va bien. Si Chantal aime mettre le nez dans le maillot de corps humide de transpiration de son homme, ça la regarde.
Bon bah écoute, merci Hélène Souhaud, pour nous avoir expliqué si clairement que tu prends régulièrement ton pied grâce aux auréoles sous les bras musclés de Marlon Brando, et que si Robert aime porter de la lingerie de temps en temps et qu'il est heureux comme ça, tout va bien. Bon, et puis Hélène, je profite de l'occasion pour te le confirmer, t'as de beaux yeux de psy, tu sais. Bon Hélène, on te retrouve la saison prochaine pour ton œil du psy justement, dans Rendez-vous Compte.
Avec grand plaisir.
Voilà, c'est fait.
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique consacré ce mois-ci au thème du blason en hommage au corps féminin. Et nous retrouvons avec beaucoup de plaisir la voix des jeunes, Victoria, étudiante en littérature et qui va nous faire partager un poème dont elle est l'autrice. Victoria.
Exactement, c'était pendant ma première année de prépa, donc en Hippocagne, on nous a demandé de faire un blason. Et j'ai choisi la main. Et avec l'aide de ma mère, c'est une très bonne antisèche. Donc je vous le lis. Aude à la main, elle trace en ses lignes un destin, une vie. Peut-être travailleuse ou hélas paresseuse, elle sera toujours l'outil de mes envies. Extension de l'esprit, rêveuse, chaleureuse, la main donne souvent et reçoit sans souci. Messagère fidèle et la main audacieuse, qu'elle insulte ou salue, elle anime la vie. Elle effleure la joue rebondie de l'enfant, cajole, enlince, étreint les doigts de son amant. Réconforte l'ami, posé sur son épaule, et pour pouvoir prier, aussi elle avoir accès, elle attend sa dauphine, identique en ce rôle. Mais Seigneur, pourquoi faire ? Une main, c'est assez.
Magnifique, je ne connaissais pas, hein, on le découvre là pendant l'émission. Et je crois que ton poème a été considéré comme le meilleur de la promotion.
Oui, ce n'était pas noté, mais ma professeure m'a dit, c'est très beau, c'est mon coup de cœur de la classe.
Wow. Voilà. Bah écoute, c'est notre coup de cœur aussi de l'émission. Merci Victoria. On te retrouve aussi à la rentrée ?
Oui.
Voilà.
Tu sais que j'ai du mal encore à parler de toi. Il paraît que c'est normal. Y a pas de règles dans ces jeux-là. Tu sais, j'ai la voix qui se serre. Je te croise dans les photos. Tu sais, j'ai le cœur qui se perd. Je crois qu'il te pense un peu trop. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. C'est dur de briser le silence, même dans les cris, même dans la fête. C'est dur de combattre l'absence, car cette conne n'en fait qu'à sa tête. Et personne ne peut comprendre. On a chacun sa propre histoire. On m'a dit qu'il fallait attendre que la peine devienne dérisoire. C'est comme ça. C'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps.
instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. Je voulais te dire que j'étais fier d'avoir été au moins un jour un peu ton ami et ton frère, même si la vie a ses détours. C'est comme ça, c'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Tu sais, j'espère au moins que tu m'attends.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Dans ce rendez-vous compte, nous avons le grand plaisir d'accueillir la première contribution de Naé, qui a été stagiaire à IDFM au mois de mai et qui, en bon passionné de football, nous propose une remarquable analyse intitulée « Chaque partie du corps est utile au football ».
Bonjour Didier et bonjour chers fidèles de rendez-vous compte. Je suis Naé, le passionné de football de cette émission, et aujourd'hui nous allons traiter le thème du corps humain dans le football. Chaque partie du corps est utile au football, certaines plus que d'autres. Commençons par la tête. La tête sert à faire gagner des trophées. Cela passe par un but ou par une action défensive remarquable. Si on parle de but, impossible d'oublier la tête de Sergio Ramos en finale de Ligue des Champions le 24 mai 2014 contre l'Atlético de Madrid. Alors que l'Atlético menait 1-0, 93e minute, corner pour le Real Madrid, frappé par Luka Modric, Sergio Ramos surgit et place une tête décroisée qui finit sa course dans le petit filet de Thibaut Courtois. Une tête qui change tout, puisque dans les prolongations, le Real Madrid s'imposera finalement 4-1. Les têtes servent aussi à défendre. À l'image des nombreux sauvetages qu'a pu réaliser Thiago Silva, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, sur sa ligne de but, certains mettent la tête là où d'autres ne mettraient même pas le pied. C'est ça aussi le courage dans le football. Et puis, il y a des têtes qui tournent, des têtes qui font perdre le contrôle. Comment ne pas citer le coup de boule de notre légende Zinedine Zidane contre l'Italie en finale de Coupe du Monde 2006. Un geste aujourd'hui devenu mythique, mais qui laisse malgré tout un goût amer pour le dernier match de Zizou sous le maillot de nos bleus. Puis il y a évidemment les pieds dans le football. Prenons d'abord le pied gauche, souvent associé à quelque chose de doux, de technique, de soyeux, presque d'artistique. Quand Lionel Messi caresse le ballon de sa patte gauche, quand Martino Degarde, James Rodriguez et Angel Di Maria, ou plus récemment Lamine Yamal, utilisent le ballon avec une élégance et une tendresse particulières. Les gauchers, plus rares soient-ils, nous font rêver par la magie qui peut sortir du bout de leur pied gauche. Puis il y a le pied droit, qui lui aussi peut être synonyme de magie, de dribble, de technique pure et de gestes fantasques. Comment ne pas penser à Neymar, Désiré Doué, Adel Tarabt ou encore Thiago Alcantara, des techniciens hors du commun capables de faire du ballon absolument ce qu'ils en veulent. Enfin, il y a une partie du corps interdite dans le football, la main. Mais l'une d'entre elles est quand même entrée dans l'histoire. Celle de Diego Maradona en 1986 contre l'Angleterre, la fameuse main de Dieu, une action pourtant interdite, mais devenue un symbole éternel dans l'histoire du football. Mais finalement, est-ce que la partie du corps, la plus importante dans le football, ne serait ni la tête, ni les mains, ni les pieds? Et si c'était le cerveau? Eh oui, si on ne pense pas bien, on ne joue pas bien. Les plus grands joueurs ne sont pas forcément les plus techniques, ce sont souvent les plus intelligents. Ils voient tout avant les autres, ils pensent plus vite que les autres. Des joueurs comme Andrea Pirlo, Xavi, Iniesta, Luka Modric ou encore Toni Kroos possèdent évidemment des qualités techniques incroyables. Mais ce qui les distingue réellement, c'est leur intelligence de jeu. Le football est finalement quelque chose de simple. Un corps humain capable de créer des actions, des émotions et des moments qui resteront gravés dans la mémoire. Et c'est ça, la beauté de ce sport.
Merci beaucoup Naï pour cette première chronique bien d'actualité avec la Coupe du Monde 2026 et si judicieuse sur l'importance déterminante du cerveau dans le jeu des grands champions. Naï, on te retrouvera également dans notre rendez-vous compte de la saison prochaine. Et en attendant, allez les Bleus évidemment. Voilà, je voudrais qu'on termine ce rendez-vous compte de la saison en accueillant Édouard, cavalier émérite et chercheur en histoire équestre, que j'ai reçu à ce même micro le 14 mai dernier. Édouard qui nous propose une première chronique tout à fait passionnante dans le thème de notre émission, mais que l'on pourrait intituler « Blason équin ». N'est-ce pas Édouard ?
Oui, exactement Didier. En fait, je vais un petit peu m'écarter du corps humain pour me tourner vers mon sujet d'étude et ce partenaire qui me suit depuis presque toujours, le cheval, et de toutes les parties qui composent son corps, il en est une qui se démarque, les oreilles. Elles ne représentent ni la puissance de l'animal, ni sa force brute, ni même sa vitesse. En revanche, elles incarnent le meilleur canal de communication que l'on puisse espérer avec un être qui ne parle pas notre langage. C'est en apprenant à les observer que l'on comprend l'attitude de l'animal. Dès les premiers instants passés aux côtés de ce partenaire, on apprend au cavalier à assimiler les différentes positions de ses organes. Car, contrairement aux nôtres, les oreilles d'un cheval ne sont pas fixes. Elles sont mobiles et chacune de leurs positions retranscrit un état d'esprit de l'animal. Elles agissent comme un véritable radar sensoriel pour permettre à l'équidé de percevoir ce qui l'entoure. Tout simplement, elles s'orientent dans la direction que l'animal cherche à analyser, si toutefois il en ressent besoin. Les positions enseignées le plus couramment sont les suivantes. Droite et en avant, le cheval est attentif, voire curieux. En arrière et plaqué, l'animal est agressif. Enfin, s'agitant dans plusieurs directions, il est à l'écoute de son environnement. Ces notions sont bonnes pour débuter la relation avec l'animal, mais elles ne sont pas tout à fait exactes. Avec l'expérience, on sait que les oreilles ne sont que le point culminant d'une attitude plus générale qui se traduit dans tout le corps du cheval. Ainsi, des oreilles dressées en avant peuvent aussi traduire une certaine inquiétude. Mais dans cette situation, c'est tout le corps qui est raide, prêt à s'enfuir au moindre bruit suspect. Le cheval peut aussi très bien écouter son cavalier sans nécessairement orienter ses oreilles vers lui, tout comme il peut parfaitement n'en bouger qu'une seule. Il existe aussi des positions que l'on pourrait décrire comme plus communes. Ainsi, des oreilles légèrement affaissées peuvent traduire un sentiment de détente ou bien simplement signifier que le cheval ne prête que peu d'attention à ce qui l'entoure, comme lorsqu'il se trouve dans un environnement sûr tel que l'écurie. La question des oreilles en arrière est un dernier point à comprendre en détail. D'abord, il ne faut pas confondre des oreilles plaquées en arrière avec des oreilles simplement orientées vers l'arrière. Dans cette seconde situation, l'animal est plutôt en train d'écouter quelque chose se trouvant derrière lui, son cavalier sur son dos par exemple. Lorsqu'elles sont véritablement collées en arrière sur le haut de l'encolure, cela peut en effet traduire une certaine agressivité. Mais il faut encore y voir une forme d'inconfort poussant l'animal à adopter un mécanisme de protection. Le cheval n'est pas agressif gratuitement, une telle attitude prend sa source dans un élément extérieur, qu'il vienne de l'humain ou d'un congénère. Il faudrait aussi ainsi conclure ce court portrait d'une partie si intéressante en rappelant que les oreilles ne sont au fond que le dernier maillon de la chaîne de communication du cheval. Il est absolument crucial d'observer l'animal dans sa globalité pour le comprendre sans se focaliser uniquement sur ses oreilles. Mais de mon expérience de cavalier, je dois dire que cette partie du corps est clairement l'une de celles sur lesquelles je m'appuie le plus pour espérer saisir ne serait-ce qu'une infime partie de ce qu'exprime réellement le cheval.
Voilà, merci Édouard pour cette première chronique que nous avons bien sûr écoutée, toute oreille dressée. Merci à toi. Édouard, on te retrouve aussi la saison prochaine.
Avec grande joie, Didier.
Super, merci. Ainsi se termine notre rendez-vous compte spécial chronique consacré ce mois-ci au thème du blason, hommage au corps féminin, mais pas seulement. Une émission à retrouver en podcast sur le site d'IDFM avec toutes les références de nos chroniqueurs. Merci Michel, Nicolas, Thierry, Gérard, Hélène, Marine, Victoria, Estelle, Édouard et Naé. On vous retrouvera avec grand plaisir à la rentrée de septembre. En attendant, nous vous souhaitons un bel été sous les couleurs et le blason, évidemment, d'IDFM. Rendez-vous compte.